Bonjour, bonsoir et bienvenue dans L'œuvre au noir, le podcast de métallurgie qui décrypte pour vous les références artistiques et culturelles du métal. Je suis Scalmax et on se retrouve pour le 12e épisode de ce podcast. Un 12e épisode que j'aurais aimé sortir un peu plus tôt, mais voilà, parfois on traîne un peu. Et j'ai bon espoir que le 13e épisode sorte quand même plus vite que le 12e, puisque j'ai déjà pas mal avancé, ou on va dire que la partie recherche est déjà bien entamée. Donc l'attente avec le prochain épisode devrait être un peu plus courte cette fois. Un 12e épisode sur un sujet qui est tellement gros et évident que j'aurais pu passer à côté. La mort dans le métal, bon, c'était peut-être aussi tellement vaste que on pourrait en fait consacrer un podcast entier à ce sujet, c'est certain, mais voilà, je me suis dit qu'il y avait sûrement des choses à raconter là-dessus, et puis vous pouvez s'interroger, ou en tout cas essayer de classifier, essayer de mettre de l'ordre un peu dans tout ça, et comme j'aime bien, voilà, classer, essayer d'identifier, de mettre des étiquettes sur des choses, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc c'est un épisode où on va évidemment prendre pas mal de recul, c'est un sujet qui est vaste, j'ai évidemment pas la prétention de faire quelque chose d'exhaustif. Comme d'habitude, cet épisode part d'un constat personnel. Le constat, c'est que j'écoute pas simplement du métal, mais c'est essentiellement dans ce style de musique qu'on va retrouver des groupes qui ont choisi leur nom ou même toute leur esthétique en fonction de la mort. Alors je prends les trois exemples totalement classiques, hein. On pense à Death, on pense à Obituary, qui est le mot anglais pour signifier nécrologie, ou Sepultura qui signifie la tombe. Voilà, on a quand même une certaine récurrence dans le métal vis-à-vis de ces sujets-là. Et à ma connaissance, il n'y a quand même pas tant que ça d'autres styles de musique qui sont si obsédés par cette question de la mort. À part éventuellement le rock gothique qui est quand même qui peut arriver deuxième dans ce créneau-là, je pense. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez rare finalement dans le reste de la musique. C'est pas tant que ça un sujet aussi principal, aussi central que dans le métal. Alors qu'évidemment, c'est un constat qui est très basique, mais qui m'interroge un peu, notamment sur le côté, peut-être, on va pas dire psychologisant, mais peut-être un peu anthropologique. Voilà, quelles sont les raisons profondes, en fait, derrière ça, de consacrer toute sa musique à parler de sujets qui se tournent autour de la mort, de l'au-delà, du décès, des choses comme ça. Donc c'est, à mon sens, c'était intéressant de se pencher là-dessus. Et deuxième chose, en parallèle, c'est quand même un reproche qui a souvent été fait au métal de propager une esthétique qui est morbide, qui inciterait au suicide, etc. Ça, c'est plutôt la vision des détracteurs. Alors c'est quelque chose qui s'est calmé quand même aujourd'hui, mais on va dire que dans les premières années du métal, ou en tout cas dans les années 80, où il y avait quand même plus de réticence vis-à-vis de ce style de musique, c'est quand même des reproches qui ont été faits assez rapidement. Et donc moi j'ai envie de partir de ces reproches, notamment pour remettre les choses au clair. Déjà que le métal, bien sûr, s'inscrit dans une histoire de l'art qui est beaucoup plus large, et que le métal là-dessus n'a vraiment rien inventé, parce qu'au final la mort, la représentation de la mort dans l'art, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles, voire des millénaires. Donc j'ai décidé de remonter le plus loin possible, on va dire. Première chose, si on essaye de repartir vraiment aux origines, parce qu'il me semble que si on arrive à montrer que c'est une question suffisamment ancienne, c'est que c'est sans doute une question qui est profondément ancré dans la nature humaine. Alors même si c'est quand même un peu une notion fourre-tout peut-être de parler de nature humaine, je sais pas trop, mais c'est quand même une question profondément anthropologique, quelque chose qui est propre à l'espèce humaine que de s'interroger là-dessus. Et donc un premier exemple peut-être sur l'histoire, sur l'occurrence de la mort dans l'art, c'est tout simplement la préhistoire en fait. Si on regarde un peu au niveau des preuves qu'on peut avoir là-dessus, j'ai envie de citer l'exemple de la grotte de Cussac, qui est une grotte en Dordogne, dans laquelle on a retrouvé des ossements. Et c'est une grotte qui était visiblement habitée il y a environ 28 000 ans, 28 000, 30 000 ans. Et les scientifiques ont repéré une concordance temporelle entre des sculptures et des peintures qui ornent la grotte et la présence de corps qui ont été enterrés. Donc c'est pas simplement accidentel, c'est vraiment une sorte de rite funéraire. Des personnes ont été enterrées ici en présence d'œuvres d'art. Et donc c'est déjà un premier exemple. On voit qu'il y a ça fait quand même très longtemps qu'on fait cohabiter la mort et l'art ensemble, et c'est quelque chose qu'on va le voir, ça, c'est quelque chose qui va se développer évidemment au fil des siècles. Là, en l'occurrence, c'est une cohabitation entre la mort et l'art, mais au fur et à mesure, la mort va de plus en plus être représentée dans l'art. Si on quitte les grottes d'il y a 28 000 ans et qu'on revient un peu plus proche de nous, à savoir vers l'Antiquité, on a aussi des exemples comme des sépultures, par exemple, qui peuvent être vues comme artistiques. En tout cas, il y a un travail sur les sépultures qui laisse suggérer que voilà, on va orner, on va décorer justement la dernière ce qui nous reste du défunt. En l'occurrence, là, je parle plutôt de l'Empire romain, et il a été repéré un vrai travail artistique sur les sarcophages, sur les masques funéraires, sur les stèles, et donc encore une fois, là, on a cohabitation entre l'art et la mort. Pour ce qui est de la mort comme sujet, en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver notamment dans la peinture, et je pense là à la peinture du XVIIe siècle où on voit apparaître des vanités. Une vanité, c'est quoi ? C'est une peinture qui représente un crâne et pas forcément l'objet central de la peinture. Il peut se retrouver dans une nature morte, il peut se retrouver au milieu d'autres objets, il peut se retrouver aussi dans un portrait éventuellement. Et le but de la vanité, le but de ce crâne, c'est de montrer la fragilité de la vie, de montrer que la vie est vaine du coup. C'est quelque chose qui va être popularisé à partir du XVIIe siècle. Et donc on rappelle à travers ça, tout simplement notre condition de mortel et clairement la mort a sa place dans le tableau. Donc là on était plutôt sur des arts, disons la sculpture, les arts un peu plus picturaux. Si on parle de musique, le métal n'est pas le premier à avoir introduit la mort dans la musique, loin de là. Donc si on parle de musique, alors notamment une musique classique, musique savante, opéra, etc. On a plusieurs choses, plusieurs occurrences. Déjà, il y a un type de morceau qui existe, qui s'appelle le requiem. Donc, c'est un type de morceau qui est en fait une messe pour les morts. Donc, on va avoir évidemment une musique plutôt sombre, plutôt solennelle, et qui n'a pas attendu le métal pour exister, bien entendu. D'autres exemples qui sont quand même assez connus. Camille Saint-Saëns, par exemple. A fait un morceau qui s'appelle La Danse Macabre. Wagner a représenté la mort dans son opéra Tristan et Iseult, donc c'est avec un passage sur la mort de Iseult justement. Et donc voilà, c'est des exemples. Je sais pas si c'est des choses qui ont choqué à l'époque ou pas, mais pour le coup, en musique, la mort a été représentée avant le métal, c'est quelque chose qui est certain. Mais malgré tout, on ne peut pas ignorer que la mort, c'est quand même quelque chose qui est omniprésent dans le métal, c'est quelque chose qui est presque obsessionnel. L'objectif de cet épisode, après ce petit rappel sur l'art de manière générale, ça va être de voir comment est représentée la mort dans le métal. Comment c'est représenté ? Ben, c'est à travers, bien sûr, les visuels, donc qu'on parle de pochettes, qu'on parle de logos, qu'on parle de maquillage, d'apparence. Si on parle de pochette, par exemple, on va facilement représenter la mort sous l'apparence de la faucheuse. Dans les logos, on va avoir des logos qui peuvent être un peu dégoulinants, des logos qui vont intégrer un cercueil, qui vont intégrer une croix, une stèle, etc. Qu'on parle de maquillage ou d'apparence, bien entendu, le corpse paint, par exemple, c'est littéralement la peinture du cadavre, une peinture cadavérique. C'est sûr que visuellement, on voit très bien que la mort a son importance, mais également dans les paroles. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec, comme d'habitude, trois morceaux qui vont aborder ce sujet, qui vont aborder le sujet de la mort. Et on va surtout s'intéresser à... ce que je vais essayer de faire, c'est de montrer qu'il y a il y a plein d'angles pour aborder ce sujet-là. Et on va se focaliser sur trois angles en particulier qui vont nous permettre d'expliquer pourquoi. Évidemment, c'est ça la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la mort est si présente, si obsessionnelle dans le métal. La première chose qui me paraît un peu évidente, c'est que c'est un sujet extrême, c'est certain, un sujet extrême qui colle à une musique extrême. Donc ça marche forcément très bien. C'est quelque chose qui choque. Avant ça, le rock avait bien entendu son credo sexe, drogue, rock and roll. Il fallait aller plus loin. Il fallait quelque chose qui, il fallait que le metal qui représente une radicalisation par rapport au rock aille plus loin finalement et aille aller chercher des sujets qui soient peut-être encore plus dérangeants. Et cette volonté de choquer, on va la retrouver même dans. C'est marrant parce que c'est à peu près dans les mêmes époques aussi. C'est un parallèle qu'on peut faire avec les films d'horreur, les slashers, les choses comme ça, qui ont, notamment les slashers, c'est très assez typé quand même années 80. Et donc on va aller toujours plus loin dans le côté graphique, dans le côté gore, dans le côté qui pisse du sang, et c'est quelque chose qui va bien sûr influencer, qui va plaire naturellement au groupe de death metal et au groupe de grindcore. Et donc le death metal et le grindcore vont aimer particulièrement mettre en scène la mort, la montrer peut-être la torture, des choses comme ça, avec un angle vraiment très, très terre-à-terre, très viscère, boyau, sang, bile, etc., tout ce que vous voulez. On est même quasiment dans du médical, si on parle de certains groupes, en particulier du groupe dont on va discuter, qui est Carcass. Mais voilà, on arrive à des degrés d'absurdité, enfin, on atteint souvent l'absurde quand même avec ce genre de paroles. Alors évidemment, je parle de groupes comme Cannibal Corpse, qui en a fait sa marque de fabrique, Exhumed aussi, qui a un passé un peu plus grind pour le coup, et qui s'est orienté ensuite vers le death metal, qui revendiquait faire du gore metal carrément à une époque. Il y en a, si je me trompe pas, ils ont un album qui s'appelle comme ça. Carcass bien sûr, Autopsy, voilà, ce genre de groupe, c'est le sommet, en tout cas dans les années dans leurs premières années, c'est le sommet du crado, du gore, du repoussant, tout ce que vous voulez. Et c'est même devenu une surenchère avec le temps, puisque y a des groupes qui se sont inspirés de ces pionniers-là, et qui ont voulu aller un cran au-dessus dans la surenchère avec le gore grind. Et donc là on est sur des hectolitres d'hémoglobine avec des groupes comme Sublime Cadaveric Decomposition ou Last Days of Humanity qui ont radicalisé à la fois le... Alors pour les paroles, j'avoue que je ne suis pas allé voir. Est-ce qu'il y en a vraiment même? On peut se poser la question. Mais même visuellement et même en termes de son, c'est ça qui en fait un vrai genre aussi, le gore grind pour le coup. C'est qu'on est... Alors on repousse les limites du death metal qui sonne purulent, qui sonne crado, tout ce que vous voulez, avec des voix qui vont de plus en plus ressembler à des bruits de chiottes, hein, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, voilà, c'est une surenchère de dégueu qui est visée par des groupes comme ça, quoi, donc plus gore grind. Et donc, voilà, on est dans un rapport très visuel, très graphique à la mort, et on va... Ça va être évidemment la surenchère à qui va écrire les trucs les plus dégueulasses, mélanger de la torture avec de la sexualité, avec du viol, avec des choses comme ça. Enfin voilà, c'est le même objectif qu'un film d'horreur, qu'un slasher ou ce genre de choses, c'est d'aller dans l'excès. Et puis bah, au bout d'un moment, bon, je pense que tout a été dit, quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui, après des décennies de death metal derrière nous, c'est certain que on pourra pas faire plus. Il y a un moment où, quand on a écrit sur toutes les formes de torture possibles et imaginables, bon, bah, au bout d'un moment, on tourne en rond. Mais pas pour Carcass, pour le coup, puisque Carcass est un groupe très, très intelligent sur plein d'aspects. Musicalement, bon, déjà, c'est un groupe qui a beaucoup évolué, qui est parti plutôt du grindcore, qui est allé vers le death metal, puis ensuite vers un death metal plus mélodique, et qui a pas une énorme quantité d'albums vis-à-vis de son grand âge. Je pense qu'il n'y a même pas 10 albums chez Carcass, sans doute pas. Mais à chaque fois, il y a quand même très peu d'erreurs de parcours chez Carcass. Ils réfléchissent avant de faire des choses, ils réfléchissent avant d'écrire des paroles, et c'est notamment c'est pour ça qu'on va s'intéresser à ce titre qui est sur l'album Heartwork, donc l'album de 1993 où qui est un peu le basculement chez Carcass vers du mélodique. Un excellent album, avec notamment la présence de Michael Amott dans le groupe, qui voilà, qui en fait un vrai, vraiment un vrai bijou du death metal. Et notamment au niveau des paroles, je disais que c'est voilà que Carcass est quand même un groupe assez intelligent, un groupe qui va pas reprendre bêtement les codes du death metal, mais qui va justement, on l'a vu, hein, musicalement, ils font évoluer les choses. Pour le coup, Artwork, c'est un album de 1993, donc ça fait que quelques années que le death metal existe. Et il pourrait, voilà, partir sur une formule un peu tranquille, mais non, ils font quand même constamment évoluer les choses. Et notamment au niveau des paroles, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Avec plus précisément le morceau qui s'appelle Arbeit macht Fleisch, un titre qui fait écho très explicitement au fronton que l'on peut retrouver à l'entrée du camp de Auschwitz. Donc sur ce fronton, il est écrit Arbeit macht frei, donc le travail rend libre. Tristement célèbre slogan qu'on peut lire à l'entrée de ce camp de la mort. Et donc Carcass a décidé de jouer sur les mots en mettant Fleisch à la place de Fry. Donc Fleisch, c'est surtout un jeu de mots sur le mot flesh en anglais qui signifie la chair. Et donc on est, voilà, dès le titre, on est déjà sur quelque chose qui va jouer à la fois sur Arbeit, donc le travail et la chair. Et on va voir que Carcass va être très pertinent là-dessus, puisqu'ils vont reprendre les codes du death metal, mais pour avoir une critique, un regard social sur le travail, et notamment sur le travail d'usine. Carcass, ils ont, je parlais d'intelligence d'écriture un peu plus tôt, ils ont notamment sur leurs premiers albums tendance à utiliser un vocabulaire qui est très difficile à comprendre, très technique, très médical. Et ils vont un petit peu reprendre de ces codes-là, ça se dilue quand même sur Artwork, il y a moins ces choses-là. Et donc ils vont avoir souvent ce côté très descriptif dans leurs paroles. Donc ce titre commence avec. Et donc le titre commence avec des paroles comme Tooth Cogs Churn, des rouages dentés sont en train. Des rouages avec des dents, des rouages dentés sont en train de s'activer. So trenchant against soft flesh, donc ils sont tranchants contre de la chair tendre. Worked to the bone, donc on a voilà, des rouages dentés qui mangent la chair, qui arrachent la chair qui est tendre jusqu'à l'os. Dès le début du morceau, on a un jeu sur des rouages, des engrenages qui sont dentés et qui viennent manger la chair des travailleurs, puisqu'en fait c'est de ça qu'il s'agit. Et donc on a l'impression d'avoir un prédateur qui mange sa proie. Et globalement, tout au long du morceau, on va avoir des choses qui ont un lien avec ce côté viscéral, ce côté viande, tout simplement. On le retrouve un peu plus loin, cette allusion au côté un peu viande, un peu saignant. On parle donc de mincing machinery. C'est donc une mince, c'est la viande hachée. Et donc c'est une machinerie qui est là pour créer de la viande hachée, industrialisée, crunched and brutalized. Donc elle est croquée, elle est mâchée et brutalisée. Donc encore une fois, cette viande, bah, c'est tout simplement le corps des travailleurs, des masses laborieuses qui est mangée, qui est broyée finalement par la machine. À un moment aussi, on trouve une allusion à grave to the grind. The grind, c'est ça, c'est broyer, c'est réduire en miettes, c'est réduire en petits morceaux. Et the grind aussi, ça peut être vu comme un mot pour désigner le travail répétitif, le travail qui a servi, le travail qui détruit finalement. Pour refaire un lien avec le titre, donc Arbeit macht Fleisch, on a des allusions également à la Seconde Guerre mondiale. Donc on est vraiment sur un morceau qui aborde vraiment beaucoup de thèmes à la fois, mais qui s'entremêle de manière assez habile. Donc on a un vers qui dit Blood, sweat, toil and tears. Blood, sweat, toil and tears, c'est donc le sang, la sueur, le labeur et les larmes. C'est une référence à un discours de Churchill, donc une fois qu'il est engagé dans la Seconde Guerre mondiale, il fait ce discours-là, et donc cette formule-là, elle est restée. Et donc au-delà de ça, bien sûr, le sang, la sueur, les larmes, bien entendu, c'est quelque chose qui est. Là, on est toujours dans le cadre de l'usine, du travail qui anéantit. Voilà, ça a tout à fait sa place ici. Et donc après, on a le morceau la phrase qui donne son nom au morceau, Arbeit macht frei, Fleisch, qui est donc là, pour le coup, une référence directe au nazisme, et donc à Auschwitz, dont on parlait. Et comment est-ce qu'on a la certitude qu'on est vraiment sur un discours plutôt engagé, un discours marxiste, hein, quasiment, de lutte des classes? Et c'est quelque chose qui revient fréquemment chez Carcass, pour peu qu'on y prête un peu attention. Encore une fois, juste une phrase qui est très intelligente et qui est très bien écrite pour le coup. Your pound of flesh for the suzerain. Your pound of flesh, donc ton kilo de viande. Donc encore une fois, on est sur une métaphore un peu bouchère. On a littéralement une a pound, c'est donc la livre, le kilo de chair, donc. For the suzerain, donc le suzerain, donc là, en gros, c'est vraiment l'ouvrier qui est exploité par le propriétaire, quoi, qui est exploité par le possédant, et donc il livre son corps pour le suzerain, donc pour celui qui ensuite vient, celui qui a servi finalement les masses laborieuses. Voilà, donc on est sur quelque chose qui est sanglant, quelque chose qui rappelle la mort. On est dans, voilà, visiblement une sorte d'usine qui crée des morts à la chaîne. Alors évidemment, avec un titre comme ça, on pense forcément au camp de concentration. Évidemment, un lien avec l'exploitation au travail, à l'usine. Et donc on a voilà, déjà une prise de recul, ou en tout cas une vision intelligente du gore et du sanglant dans le death metal. Avec Carcass, du coup, qui s'éloigne du cliché slasher, film d'horreur, etc., pour apporter un discours finalement social et politique qui donne à Carcass ce côté peut-être mature et réfléchi qu'on retrouve pas forcément chez tous les groupes de death metal. On s'écoute donc tout de suite un extrait de Arbeit macht Fleisch et on revient juste après. On vient de parler du death metal là pendant quelques minutes avec son rapport, on l'a dit, très charnel, très médical même à la mort, quelque chose de très tangible, de très physique, mais on peut pas dire que tous les sous-genres de metal entretiennent ce rapport un peu clinique avec la mort, loin de là. C'est pas inintéressant peut-être dans cette deuxième partie de faire un petit tour d'horizon des principaux genres de métal et voir que par sous-genre on va avoir des visions qui peuvent être assez différentes de la mort. On va pas l'aborder de la même façon. On va s'attarder vraiment sur, disons, les sous-genres un peu classiques du métal. Je pense que c'est peut-être les plus représentatifs de plusieurs différentes écoles. Après, il y a bien sûr des exceptions, c'est un genre, c'est pas complètement monolithique non plus. Il y a quand même des tendances qui se dégagent et qui vont conditionner le rapport à la mort, et par association, la musique va être aussi influencée par ça. On peut peut-être commencer par le heavy, histoire d'y aller chronologiquement. Alors je pense heavy, mais aussi power, quoi. Voilà, ce côté un peu... c'est peut-être même presque plutôt ça qui vient en tête. Ce côté heavy power, c'est plutôt l'idée, c'est plutôt de braver la mort, de l'affronter. On a très souvent, voilà, qu'on parle de Manowar, de groupes comme, je sais pas, Sortilège par exemple. On a souvent des groupes, des choses assez narratives où on va avoir un personnage qui va, un peu comme dans de l'heroic fantasy par exemple, va devoir affronter la mort, va devoir faire preuve d'héroïsme, triompher face à la mort. Ça va conditionner forcément des pochettes avec, j'en sais rien, je pense là comme ça à la pochette de Eternal Champion avec une épée brandie vers le ciel. C'est totalement l'image que je me fais du heavy metal vis-à-vis de la mort. C'est un côté un peu conquérant, un côté un peu... va en guerre et voilà, l'homme, le héros seul face à son destin qui doit échapper à la mort, qui doit échapper à différents obstacles qui viennent sur sa route. Donc on a un rapport plutôt conquérant vis-à-vis de la mort dans le heavy, en tout cas tout ce qui est affilié et heavy power et qui trempe un peu dans la fantasy quand même. Si on avance un peu, concernant le trash, on a une mort qui est pour le coup beaucoup plus terre à terre, qui va être moins romancée. Voilà, la mort va être moins individualisée déjà, on n'est pas face à un héros, on n'a pas de héros qui se retrouvent face à la mort, on est plutôt sur, au contraire, des masses, des pays, des populations, etc. Et on a une mort plus terre à terre. Où on va inclure des choses beaucoup plus politiques, les causes de la mort, ça peut être des conflits, ça peut être le nucléaire, éventuellement peut-être un peu de science-fiction par moment. Et là, comme ça, je pense à des groupes comme Megadeth, comme Voivod, comme Sodom, Creator, notamment pour le trash un peu années 80. Ça s'inscrit en plus dans un contexte de guerre froide. On a toujours le risque qui plane, qu'il y ait un conflit qui éclate à tout moment. Donc on est beaucoup plus sur une mort qui serait pesante, qui serait un climat permanent de tension, en fait. Voilà, donc on va avoir une vision peut-être plus réaliste et plus terrorisante aussi de la mort, hein, puisque le heavy metal, on était quand même sur des histoires d'enfants, quoi. Le chevalier qui va combattre le dragon, bon, ça fait un peu moins peur qu'un hiver nucléaire, par exemple, ou que... la guerre du Vietnam décrite par Sodom, par exemple. Et là, on est obligé de faire un petit détour avec le... puisqu'on parle de trash, il y a forcément des accointances avec le punk aussi. Un petit mot sur le punk, du coup, qui est plutôt un contre-exemple, en réalité, enfin, un contre-exemple, qui ne suit pas du tout le chemin tracé par le métal, mais ça, c'est souvent le cas, quand même, le métal est beaucoup plus onirique, va beaucoup plus partir dans de... c'est un genre qui est beaucoup plus narratif que le punk, pour le coup. Et donc le punk, quand on parle de mort dans le punk, ça va être, si on en parle, ça va être beaucoup plus pour la dénoncer, pour parler de, on parlait des guerres, des conflits armés, donc parler de la mort d'innocents pendant les guerres, de la mort des animaux éventuellement, si on est sur des groupes qui ont une sensibilité là-dessus, mais on n'envisage pas la mort comme quelque chose de mystique, comme une expérience un peu mystique, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres sous-genres. On va y venir. Après le trash, donc on peut passer au death metal, donc on en a parlé, hein, on peut, le but ça va être de représenter et d'amplifier la mort, avec le côté un peu dégueulasse, sanglant, dont on a parlé plus tôt, hein, avec Cannibal Corpse, Autopsy, etc. Dans les pionniers aussi du death old school, alors il y a aussi tout un pan qui va aller parler de la mort, mais aussi sous une perspective un peu sataniste. J'aurais tendance à laisser ça de côté, puisque à mon avis, là, des groupes comme Morbid Angel ou des groupes comme Immolation ou des choses comme ça sont. Leur angle principal, ça reste quand même une sorte de. Ou même Deicide, hein, ça reste un défi plutôt à la religion, des choses comme ça, et donc la mort, à mon avis, est plus secondaire. Mais un autre thème qui est cher, en tout cas au Death Old School, c'est la guerre aussi, comme on a pu le voir dans le trash. Ça peut découler de ça, hein. Des groupes comme Asphyx ou Bolthrower vont être... Bolthrower en a fait sa spécialité quasiment, et Asphyx, pour le coup, va aller décrire des scènes de bataille ou des choses comme ça. Une filiation, du coup, avec le trash sur le côté, description de la guerre et de la mort comme quelque chose de réaliste, de plausible, pour le coup, sans amplifier plus que ça la réalité. Et on arrive aux deux derniers sous-genres principaux qui nous intéressent ici. On va parler évidemment du black metal, qui est un incontournable quand on parle de la mort. Le deuxième morceau sera un morceau de black metal, et c'était... incontournable, forcément. Le black metal, il va avoir beaucoup de rapports différents, d'angles différents sur la mort, hein, bien entendu. Si on en cite quelques-uns, déjà, ça peut être simplement la fascination. C'est ce qu'on va voir avec le morceau. On va voir un morceau de... On va parler d'un morceau de Darkthrone juste après. La mort est vue comme une libération, un voyage, le début d'une nouvelle vie. Voilà, parce que les black metalleux, il faut savoir qu'ils sont pas très bien adaptés sur Terre. Donc, du coup, ils ont qu'une envie, c'est de mourir. Ils vont envisager la mort comme la délivrance ultime, le passage vers une vraie vie, etc. Alors avec des croyances pour certains réelles, hein. Enfin en tout cas des réelles convictions. On peut penser évidemment à John Notvaid de Dissection, par exemple, qui était convaincu de ce genre de par ce genre de théorie et qui s'est donné la mort du coup pour aller jusqu'au bout de son propos, voyant cela comme une vraie libération. Et donc ça marchait avec ça. son idéologie personnelle, ses croyances personnelles en tout cas. Cette vision de la mort comme libératrice, on va la trouver assez régulièrement sous l'angle de la fascination. Parce que, petite distinction peut-être à faire, parce que là on a un côté vraiment mystique, qu'on va peut-être pas retrouver dans le DSBM, donc le Depressive Suicidal Black Metal, donc qui est déjà un sous-genre en soi qui est exclusivement consacré au suicide, donc là on est complètement dans le thème, avec des groupes comme Xastur, Shining, des choses comme ça. À mon sens, on est peut-être un peu moins sur un côté justement expérience mystique, voyage vers l'au-delà, etc. Là on est plus, enfin en tout cas je pense que le fond du propos c'est plus d'exprimer un mal-être que de vraiment faire accéder à un autre monde, etc. Autre possibilité vis-à-vis du black metal et de la mort, comment est-ce qu'on peut envisager la mort? C'est tuer l'ennemi, hein. Tuer l'ennemi religieux en l'occurrence. Il y en a des dizaines, évidemment, le nombre de groupes de black metal qui appellent à tuer des prêtres, qui appellent à tuer des chrétiens, etc. C'est légion, là comme ça je pense à Behemoth, évidemment, qui est très vindicatif sur le sujet. Là pour le coup ça ne peut pas être la mort subie à travers le suicide, ça va être la mort qui va être donnée à l'autre pour tuer l'ennemi, en l'occurrence souvent l'ennemi religieux dans le black metal. Et enfin, dernier sous-genre, avant de passer peut-être à un morceau de black metal et voir son rapport à la mort, le doom metal, pour le coup, dont on va reparler pour le troisième morceau, le doom metal très souvent va plutôt subir la mort, d'accord, parce que je vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus, mais le doom, c'est la malédiction, c'est quelque chose qui est pesant, c'est un destin funeste. Le personnage, ou en tout cas la narration doom metal, ne va pas avoir d'autre choix que d'affronter la mort, et pas de manière glorieuse comme pour le heavy metal, en général c'est plutôt une fatalité, mais on y reviendra de toute façon. Voilà, une fois qu'on a fait un peu ce tour d'horizon, on peut remarquer qu'il y a quand même, pour le black metal et pour le doom metal, il y a quand même un côté un peu poétique, un côté un peu métaphysique qui va s'éloigner du terre-à-terre. Le terre-à-terre, on l'a dit, c'est plutôt le trash et le death qui vont narrer une réalité plutôt tangible, plutôt concrète, qui fait pas tant appel à l'imagination finalement. Tandis que le black metal, le doom, peut-être le heavy dans certains aspects aussi, on va fuir un peu le terre-à-terre pour aller vers la mort comme sujet poétique et même métaphysique. Se poser des questions sur ce que c'est que l'au-delà, ou même mener une vie dans laquelle on a conscience que l'on va mourir et tout, il y a un côté un peu tragique. Et c'est des choses qui ont traversé l'art, évidemment. On parlait des vanités un peu plus tôt. Voir un crâne dans un tableau nous renvoie vers notre propre mort. Forcément, c'est quelque chose qui est qui peut rendre au moins mélancolique, voire qui peut créer une vraie angoisse, et il peut y avoir en même temps un côté un peu esthétique, fascinant. On peut exploiter la mort sur un mode très très esthétique, très artistique, très métaphysique, poétique, tout ce que vous voulez. Je pense que vous voyez où je veux en venir. En tout cas, c'est que je pense à notamment des poètes comme Baudelaire, Verlaine, etc., ont très souvent recours à cette figure de la mort pour montrer à la fois la futilité de l'existence, le côté tragique, le côté triste, etc. Et donc, la mort peut être vue comme un thème très littéraire, finalement. Et je pense que le doom metal et le black metal sont des genres qui sont assez littéraires par cet aspect-là. Je prends quelques exemples, puisque, on l'a dit, même si on prend l'angle littéraire, il y a encore plein de choses, il y a encore plein de possibilités qui peuvent être exploitées, bien sûr. Si on parle un peu de doom metal, je pense à un morceau de Révérend Bizarre, par exemple, qui s'appelle « The Hour of Death », donc la l'heure de la mort, qui va aborder la mort de l'être aimé. C'est évidemment quelque chose qui a été traité dans des tonnes d'œuvres littéraires, bien entendu. Un autre morceau, Lady Death, par Tribulation, c'est l'association donc avec Lady Death de Eros et Thanatos, donc de l'amour et de la mort entremêlés, quelque chose qu'on retrouve dans Roméo et Juliette de Shakespeare, par exemple. Voilà, le fait d'entremêler ces deux thèmes crée un climat très, très particulier et très, très romantique, hein, même de manière générale. Encore une fois, pour faire un lien avec la littérature, si on prend A Fine Day to Die de Bathory, c'est une mort héroïque, quelqu'un qui va mourir sur le champ de bataille, etc. Et donc, Si on fait un lien avec la littérature, on peut penser à la chanson de geste, donc quelque chose qui est plus médiéval et pour le coup, il va narrer les exploits et voir le destin tragique même d'un chevalier, des batailles qu'il va mener et notamment de l'ultime bataille qui aura raison de lui et qui va le faire mourir avec honneur, etc. On a quand même cette prépondérance du doom et du black pour une vision de la mort qui est quand même assez poétique et assez romantique. On va parler plus particulièrement de Under a Funeral Moon de Darkthrone, qui est voilà qui va malgré tout ce qu'on peut avoir comme idée sur Darkthrone, qui allait chercher dans des territoires un peu plus punk, un peu plus rentre dedans, etc. Ils ont une petite, ils ont pu avoir ce côté romantique, voilà, romantisation de la mort. Ils ont choisi déjà d'appeler leur titre Under a Funeral Moon, donc sous une lune funeste, sous une lune funéraire. On n'est pas dans décapitation à la machette, quoi. C'est autre chose, c'est une autre vision de la mort quand même. Et même l'histoire qui est racontée en réalité est va totalement dans cette veine-là. Donc pour le coup, ce qui se raconte dans Under a Funeral Moon, c'est un narrateur qui choisit la mort pour rejoindre les enfers, visiblement, mais ce côté enfer est pas si développé que ça. Et donc il choisit la mort pour une autre vie, pour l'au-delà, etc. Donc c'est ce dont on parlait, hein, cette sorte de fascination pour la mort comme une délivrance ou comme l'accès à quelque chose d'encore plus grand derrière. Et donc ce narrateur va choisir de mourir et assiste à son propre enterrement. Il est en tout cas suffisamment lucide pour écrire une chanson après sur son propre enterrement, et donc ça nous donne des infos sur ce qui s'est passé. Sur le côté poétique, bien entendu, il y a pas mal de choses qui sont à relever ici, hein. On nous parle de Silver Calice Must Be Filled, donc on parle d'un calice d'argent qui doit être rempli de sang. Donc voilà, le choix de l'argent déjà comme matériau noble donne une première indice sur le climat général de la chanson. Puis au-delà de ça, hein, on insiste beaucoup en fait sur l'atmosphère, très souvent. Plus que sur le côté mort, décès, sale, etc. Pas du tout. On est plutôt, au contraire, sur de l'atmosphère, sur même du gothique, on peut le dire. Et avec une description générale de qu'est-ce qui se passe sous cette lune funeste, eh bien, on a The Howling Wind Blows in the Naked Trees, donc le vent hurlant souffle dans les arbres nus. Moonlit Fields are glowing in the dark, donc les champs éclairés par la lune brillent dans la nuit, brillent dans le noir. Donc on a une importance voilà de l'atmosphère, de la nature qui est très présente. Pendant ce temps-là, donc le narrateur se fait enfermer dans son cercueil. Il est ensuite emmené au cimetière. Il va passer dans le monde des damnés, mais on a tout un décorum qui est décrit autour pour voilà rendre ce côté. Je parlais de Baudelaire, Verlaine, etc. Tout le décorum a quand même beaucoup son importance, alors sans aller jusqu'à dire que Darkthrone et Baudelaire c'est la même chose, mais on a cet aspect voilà romantisme noir, le cadre est quand même très important pour se projeter dans quelque chose d'assez onirique, même si le sujet est très funeste. Un peu plus loin, on a des choses comme un peu plus loin, on a quelque chose comme A Raven Sings My Last Song, un corbeau chante ma dernière chanson. Donc là, on est sur un climat même d'élégie. Donc l'élégie, c'est un chant funéraire, quoi. C'est chanter la mort de quelqu'un. Donc encore une fois, on est sur un voilà quelque chose de très même très gothique, hein, le Raven, le corbeau. On avait parlé avec Edgar Allan Poe notamment. The wolves howl their goodbyes, donc les loups hurlent leur au revoir. Donc encore une fois, la nature a un rôle très important ici et rajoute à une atmosphère qui va être lugubre, qui va être funeste tout au long du morceau. Voilà, pour terminer, puisqu'on est toujours sur la nature, donc on a Flowers of Doom rising in bloom, you will see our immortality. Donc les fleurs de malheur grandissent et éclosent. Vous verrez notre immortalité. Donc traduction assez imparfaite malheureusement qui rend pas justice au texte, mais voilà l'idée de Flowers of Doom, donc les fleurs de malheur quand même. On n'est pas loin des fleurs du mal ou des choses comme ça. Donc on est encore une fois dans ce côté très imagé. Qui colle bien avec le black metal finalement, puisque alors peut-être pas avec ce morceau Under a Funeral Moon qui a quand même des riffs assez costauds. Mais ça marche avec du black metal, puisque du black metal, musicalement, c'est très porté sur l'ambiance, sur un climat général. Alors, bien sûr, les riffs sont importants, mais ne serait-ce que la texture du son, la voix, les choses comme ça, vont énormément impacter la qualité d'un morceau. Et donc, c'est comme, voilà, c'est exactement comme le cadre général d'une histoire ici. Bah, on a beaucoup d'éléments morbides, mais assez nobles, assez poétiques qui apparaissent ici, et qui donnent un côté quand même assez majestueux, assez solennel à la mort. Et ce genre de morceau, ça réussit à rendre la mort belle, peut-être pas désirable forcément. Voilà, ça rend la chose assez noble. C'est pas simplement un corps qui pourrit, boyaux et du sang, c'est voilà, au contraire, tout un décorum, toute une ambiance, une atmosphère qui vient accompagner la fin de quelque chose. Enfin, je vous ai pas trop perdu là-dessus. Je trouve que c'est pas évident de rendre compte du côté voilà, poétique d'un texte. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Darkthrone, c'est pas non plus du Byron ou du William Blake ou des choses comme ça, mais voilà, y a une petite patte quand même poétique et poète maudit, finalement, c'est peut-être sur ça qu'on peut conclure, qui se dégage de ce titre-là. Au-delà de ça, bah, musicalement, c'est un morceau totalement recommandable, un album totalement recommandable, bien évidemment. Et puis, selon Fenris, c'est donc le batteur de Darkthrone, selon lui, c'est le meilleur morceau de leur période black metal. Donc, je vous laisse entre les mains expertes de Fenris, Nocturne Occulto et Zephyrus. Pour terminer sur le troisième morceau, je disais un peu plus tôt que je voulais revenir sur le cas du doom metal, parce que c'est à mon sens le genre qui a le rapport le plus naturel à la mort, et donc selon moi le rapport le plus touchant à mon avis vis-à-vis de ce sujet-là. C'est un sujet que j'ai déjà un peu abordé dans un article que j'ai écrit pour Métallurgie, qui s'appelle Doom Metal et Tragédie. Alors pas Tragédie, le groupe de R&B nantais, c'est pas eux. Il y a peut-être un sujet à creuser néanmoins, mais j'ai pas les compétences pour, en tout cas pour le moment. Je parle vraiment du genre littéraire pour le coup, la tragédie en tant que pièce de théâtre dans laquelle un destin inéluctable va se jouer. Donc j'ai déjà un peu abordé ce sujet du personnage doom metal vis-à-vis de la mort. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à aller lire ça. Je fais un parallèle notamment avec le heavy, et puis voir comment ça a évolué. Puisque là, pour ce troisième morceau, on va parler de Candlemass. Candlemass a souvent des textes assez bien foutus. Je crois que c'est pas la première fois qu'on en parle. Si je me trompe pas, on avait parlé de Candlemass dans l'épisode sur la Bible. Et donc on va reparler d'un morceau de Nightfall. Mais voilà, en l'occurrence, dans cet article, je partais de groupes comme Candlemass, notamment, donc un peu doom traditionnel, qui ont un rapport avec ce côté, on l'a dit, hein, doom, c'est le destin, la fatalité, etc. Et donc voir comment est-ce qu'il y a des liens entre un genre littéraire dans lequel le destin a toute sa place et un genre musical dans lequel le destin a aussi une place prépondérante. Donc je vous invite à aller lire ça. Donc je reviens sur Candlemass. Parce qu'à mon sens, certes le métal peut avoir tendance à représenter la mort de manière un peu crue, on l'a vu avec Carcass, peut avoir envie de représenter la mort de manière plutôt poétique avec Darkthrone. Une troisième possibilité, à mon avis, c'est la volonté d'exorciser, de représenter la mort un peu pour la dompter peut-être, et de pallier à des angoisses. À mon avis, il y a un certain nombre de musiciens métal qui sont angoissés par la mort, et sans doute que Candlemass en fait partie, en tout cas c'est ma théorie, mais c'est normal, hein. De toute façon encore une fois, ça s'inscrit dans une longue histoire une longue histoire humaine, hein, d'être évidemment angoissé par la mort. Alors c'est en partie le travail des religions que de proposer peut-être des croyances qui peuvent aider à surmonter ce genre de petit désagrément qui s'appelle le décès. Et donc pour dompter la mort, pour la domestiquer, pour essayer d'exorciser un peu ces angoisses, on peut avoir avoir recours éventuellement à la catharsis. Alors, c'est une notion qui reste intéressante à mon avis, une intuition qu'a eu Aristote, puisque c'est lui qui est à l'origine de cette notion-là. C'est une intuition qui existe depuis longtemps, en tout cas. Donc l'expérience cathartique, on va un peu revenir dessus, histoire de vraiment poser des limites sur ce que c'est. Donc la catharsis, et c'est essayer de pas trop dire n'importe quoi, parce que ça peut être un sujet un peu... voilà, qu'on peut ressortir un peu à toutes les sauces. C'est une notion avec laquelle je suis pas forcément à l'aise, que je trouve intéressante, mais... Je sais pas à quel point on peut valider ça vraiment scientifiquement. C'est une notion qui est développée par Aristote et qui est développée notamment au sujet de la musique. Je vais lire deux extraits d'Aristote à ce sujet qui développent justement l'intérêt de la musique pour pallier à éventuellement ses angoisses ou à des sentiments qui nous envahiraient, qu'on aurait du mal à contrôler et donc... Peut-être que la musique peut être une solution vis-à-vis de ça. Un premier extrait, une première phrase en tout cas qui peut nous aiguiller là-dessus. Donc Aristote dit que la musique doit être pratiquée non pas en vue d'un seul avantage, mais de plusieurs, car elle a en vue l'éducation et la purgation. Donc la purgation, c'est cette idée-là qui est derrière la catharsis, c'est de voir éventuellement, d'être témoin, de ressentir des émotions à travers une œuvre, pour se libérer soi-même de ses propres angoisses, de ses propres... difficulté à vivre. Je continue la lecture d'Aristote. Il nous dit que certaines personnes, quand elles ont recours aux mélodies qui transportent l'âme hors d'elles-mêmes, sont remises d'aplomb comme si elles avaient pris un remède et une purgation. Donc encore une fois, là, la musique, ce serait comme une sorte de remède, une sorte de purgation, quelque chose qui peut nous aider à aller mieux. Et il poursuit, c'est à ce traitement, dès lors que doivent être nécessairement soumis à la fois ceux qui sont enclins à la pitié et ceux qui sont enclins à la terreur, donc la pitié, la terreur, des passions qui peuvent nous envahir, et tous les autres qui, d'une manière générale, sont sous l'empire d'une émotion quelconque, et pour tous, il se produit une certaine purgation et un allègement accompagné de plaisir. Or, c'est de la même façon aussi que les mélodies purgatrices procurent à l'homme une joie inoffensive. Dans ce texte-là, ce qui est intéressant notamment, c'est l'histoire de purgation et d'allègement accompagné de plaisir. L'idée, c'est d'être confronté à une œuvre qui va peut-être représenter des sujets un peu difficiles, représenter des sujets, on l'a vu, la terreur, la pitié, des choses que l'on peut ressentir éventuellement en nous-mêmes, et une fois qu'on a été confronté à cette œuvre, une fois qu'on a été confronté à cette mélodie, à cette musique, on va se sentir plus léger, on va se sentir libéré, déchargé de ces passions-là, de ces angoisses-là, puisqu'elles ont été vécues par d'autres, et on a pu se libérer de nos propres passions par procuration finalement, à travers une musique, à travers peut-être une pièce de théâtre, etc. C'est ça la notion de catharsis, donc je voulais revenir dessus, histoire de préciser quand même la chose, qu'on soit pas juste dans un mot un peu lâché comme ça. Je suis pas suffisamment qualifié pour affirmer que Aristote a raison ou pas, j'ai pas une assez grande connaissance du sujet pour ça, et je pense que ça prendrait sans doute de faire l'objet de thèses de philo, très certainement. Pour étayer là-dessus, sur la catharsis, on peut voir en tout cas que depuis Aristote, en tout cas, il y a cette intuition qui existe sur les effets de la musique, les effets de l'art de manière générale, de traiter des sujets difficiles pour s'en libérer. C'est un peu ce que je vois en tout cas chez Candlemas, on va en parler un peu après. Et ça peut être aussi une explication plausible sur la récurrence de la mort dans l'art, puisque si on représente la mort, si on est confronté à la mort dans l'art, on peut éventuellement y mettre... Dans l'expérience esthétique que l'on a à ce moment-là, on peut décharger toutes les passions un peu négatives. Notre angoisse peut être éventuellement soulagée par la confrontation avec une œuvre. La catharsis, en l'occurrence, ça concerne plutôt le spectateur chez Aristote, puisque c'est quelqu'un qui entend un morceau de musique et qui, suite à cela, va se retrouver allégé, va se retrouver purgé, soigné. Mais on peut imaginer aussi assez facilement que le parolier, quelqu'un qui écrirait des paroles, qui ensuite en ferait un morceau de musique pour le jouer à plusieurs reprises, etc., on peut imaginer que cette personne, ce musicien, ce parolier, va soigner ses propres angoisses en les couchant sur le papier. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé non plus des centaines d'exemples de morceaux de doom metal qui parle de ce sujet-là de manière aussi précise. En l'occurrence, j'avais parlé d'un autre morceau, encore une fois dans un autre article, un morceau de Black Sabbath qui s'appelle After Forever, donc un morceau qui est sur Master of Reality, et qui parle aussi de l'angoisse existentielle. Une angoisse existentielle autour de est-ce qu'il existe un dieu ou pas, qu'est-ce qui va se passer dans l'au-delà, est-ce qu'il faut que je croie en dieu ou non. Pareil, je vous mettrai l'article en description. Et donc on va pas parler de Black Sabbath cette fois-ci, on va parler de Candlemas avec son morceau Dark are the Veils of Death, donc sombres sont les voiles de la mort, et qui est précédé aussi d'une reprise de Chopin. Et qu'est-ce qu'on a juste avant? C'est une reprise d'une marche funèbre de Chopin. Donc encore une fois, on parlait un peu plus tôt de la récurrence de la mort dans la musique. J'avoue que les marches funèbres, j'y ai pas pensé sur le coup, mais ça fait aussi partie de ce genre de type de morceaux comme les Requiem où la mort est partie intégrante de l'œuvre. Et donc Dark are the Veils of Death, c'est l'histoire d'un personnage qui va mourir tout simplement et qui ne sait pas ce qu'il y a après. Et ça, pour le coup, c'est une vraie angoisse, c'est certain. Et donc Candlemas va nous décrire un peu tout ça à travers ses paroles. Si on regarde les paroles dès le début, on a « Death is present, the candle has burned out, the scythe is raised, he's eager to reap. » La mort est présente, la bougie s'est éteinte, la faux est levée et il est prêt à te faucher. Donc voilà, la mort est déjà prête à accueillir sa proie. Juste après, donc « The extreme unction prepares for the last flight, but God knows where you will rest. » Donc l'extrême onction va te préparer au dernier voyage, mais God knows where you will rest, ça c'est une expression qui est pas mal, Dieu sait où est-ce que tu vas reposer. Plutôt un bon mot qui est trouvé par Candlemas, du coup, Dieu sait où est-ce que tu vas te retrouver. Voilà, on a toute l'ambivalence ici entre soi-disant la présence d'un Dieu, dans l'expression du coup Dieu seul sait où est-ce que tu vas où est-ce que tu vas aller après la mort, mais en réalité, on ne le sait pas. On a un prêtre qui est là pour donner l'extrême onction, mais en même temps, qu'est-ce qui nous dit que la conception chrétienne de la mort est réelle? On n'en sait rien du tout. Voilà, c'est l'heure, en fait, c'est l'heure vraiment du... On nous parle de last flight, le dernier voyage, le dernier vol. C'est vraiment l'heure du grand saut, de l'incertitude. Qu'est-ce qui va advenir de nous? C'est ça la vraie question posée par ce morceau. Et donc après, on a le titre qui est donné, « Dark are the veils of death ». Donc sombres sont les voiles de la mort, sombres, mais aussi ils sont impénétrables. On ne voit pas, à travers les voiles de la mort, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et donc c'est là la vraie source d'angoisse derrière tout ça. Alors un peu plus loin, on va imaginer, on peut supposer que, on l'a dit, on est dans une conception plutôt chrétienne, on nous parle d'extrême onction, de choses comme ça. Donc on nous parle plus loin de « Heaven or Hell will call you », donc le paradis ou l'enfer t'appellera, mais en fait c'est une simple suggestion, c'est presque un leurre simplement, qu'on retrouve un peu plus tard dans le morceau, puisqu'après, à la fin du titre, on a vraiment le doom qui s'abat sur nous, hein, pour le coup. Les dernières paroles qui pour le coup, sont vraiment... qui témoigne d'une angoisse, en tout cas, si jamais le parolier qui a écrit ça n'est pas angoissé, il a trouvé les mots justes pour l'exprimer. Il nous dit donc « The death mass itself has never revealed where you will go ». The death mass, c'est la veillée funèbre, la messe des morts, etc., n'a jamais révélé où est-ce que tu iras. Voilà, donc encore une fois, on est sur l'incertitude totale, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. « You will enter realms where angels fear to tread ». Donc, tu vas te retrouver dans des royaumes où même les anges n'osent pas marcher. Open hidden doors within your mind, sail with Charon, sail into destiny. Il y a des portes cachées et ouvertes dans ton esprit. Tu vas voguer avec Charon. Donc Charon, c'est celui qui est dans la mythologie grecque, celui qui amène, qui fait traverser le Styx, donc le fleuve des enfers. Sail with Charon, sail into destiny. Donc tu vas voguer avec Charon vers ta destinée, et donc encore une fois, on n'a aucune prise sur cette fameuse destinée, on ne sait pas ce qui va se passer, et donc on atteint la fin du morceau avec ça, sail into destiny, accept your death, et donc on ne sait vraiment pas ce qui va nous arriver. Encore une fois, on revient au titre, hein. Dark are the veils of death, les voiles de la mort sont sombres mais impénétrables, comment savoir ce qu'il y a après? On ne le sait pas. Et y a-t-il seulement quelque chose? Voilà, tout ça, c'est des questions qui sont posées avec ce morceau, qui est, au-delà de ça, excellent, comme tout l'album de Nightfall, qui est un classique de Candlemas. Là, on est vraiment dans un morceau qui est intéressant, parce qu'on est au-delà du simple folklore metal, pour le coup. On est vraiment dans des questions métaphysiques, personnelles, des questions d'angoisse, hein, véritablement. Et je pense que... voilà, à mon avis, on n'écrit pas un morceau comme ça si on n'a pas un minimum d'incertitude et d'angoisse vis-à-vis de ce sujet. C'est mon voilà, ma dernier angle ou ma dernière mon dernier point de vue sur la mort dans le métal potentiellement. Pourquoi est-ce qu'on écrit, pourquoi est-ce qu'on est aussi obsédé par la mort dans le métal? Ben, à mon avis, le musicien métal est un être humain comme tout le monde et il flippe un peu de savoir ce qui se passe, ce qui va se passer après. Quand il ne souhaite pas la mort, en tout cas, il peut être angoissé comme le commun des mortels. Pour terminer, on s'écoute un extrait de Candlemass, bien entendu, et on se retrouve pour se dire au revoir juste après. Cette émission touche à sa fin, merci à vous d'avoir écouté jusque-là, j'espère que ce sujet vous aura plu, c'était quelque chose d'assez vaste à traiter évidemment. Comme je l'ai dit au tout début, bien entendu, impossible de faire quelque chose d'exhaustif sur ce thème-là, bien entendu si vous avez des choses à... Bien entendu si vous avez des suggestions, des morceaux, des groupes à conseiller... autour de ce thème-là, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Pour soutenir le podcast, bien sûr, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à mettre un like, à vous abonner à la chaîne de Métallurgie, et puis à partager l'épisode autour de vous également. Si vous écoutez le podcast sur des plateformes de streaming comme Deezer ou Spotify, n'hésitez pas aussi à aller noter le podcast, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve prochainement pour un épisode 13, cette fois consacré à un livre, dont la lecture est plutôt bien avancée, donc ce sera... dans pas si longtemps que ça, en tout cas je l'espère, je vais essayer de faire d'avoir un rythme plus régulier que entre les deux épisodes que pour les deux derniers épisodes. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté, et puis bien sûr écoutez Darkthrone, Candlemass, Carcass, écoutez des disques, et puis on se retrouve très bientôt. Salut !